On est en train d'étudier une étude qui est un, faut le dire, c'est une étude sur des points de sanctification, des points que Dieu veut nous amener à grandir, à être changé. Puisqu'on voit dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, la loi de Christ, une loi de liberté. Quand que Jésus proclame des paroles qui sont des choses à mettre en pratique, c'est parce qu'il y a dans ces paroles l'Esprit de Dieu qui nous amène à être libres dans ces choses-là. Il ne fait pas juste commander quelque chose, il donne aussi la puissance pour s'en sortir. Le Seigneur veut nous délivrer, il veut nous transformer, il veut nous rendre à son image. Il fera pas ça, on fera pas ça tout seul. On a besoin de lui. On a besoin de son Saint-Esprit qui vienne le faire. Quand il commande des choses, puis il dit « Soyez comme cela », c'est parce qu'il donne aussi la puissance pour y arriver. Si on dit tout simplement « Amen, Seigneur, viens faire ces choses-là en moi », mais il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà proposé de le faire. Il attend qu'on y remette ces points-là. Amen. C'est une loi de liberté pour nous amener à être libres. Il dit pas les choses pour nous culpabiliser, nous condamner. Oui, on peut en avoir une culpabilité, là, si on est dans désobéissance. Mais s'il nous le dit, c'est pour s'en sortir. Il veut nous rendre libres. On est en train d'étudier les commandements de Dieu qui sont là dans la parole de Dieu. Puis des fois, on voudrait pas les entendre parce que c'est il y en a qui sont assez sévères, mais dans l'ensemble, c'est la volonté de Dieu. On les revoit tous ces enseignements-là dans le Nouveau Testament. Puis c'est toujours dans l'idée, là on est rendu dans l'idée d'approfondir, d'aimer son prochain comme soi-même. Parce qu'au début, on a vu d'aimer Dieu tout son cœur, tout son âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Ça, c'est si tu aimes Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face, tu ne te feras pas d'idole. Puis tu prendras pas son nom en vain si tu l'aimes, puis tu vas même prendre une journée pour le sanctifier, au minimum. Mais après ça, parce que Jésus a dit que les deux plus grands commandements, le deuxième, c'était d'aimer son prochain comme soi-même, puis là, il donne d'autres points de commandement qui ont rapport à cela. C'est en disséquant cette phrase-là, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain comme soi-même, qu'on découvre quels commandements qui sont là-dedans. Parce que dans Romains au chapitre 13 et verset 9, ça dit, en effet, les commandements, tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu déroberas point, tu convoiteras point, et ceux qui peuvent y avoir encore, les autres qui n'ont pas été énumérés là, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que quand tu dis ça à quelqu'un, aime ton prochain comme toi-même, ça c'est le résumé de tous les commandements. Quand on dit le mot résumé, là, ça veut dire, ça réunit tous les commandements, cette phrase-là, d'aimer ton prochain. Ça veut pas dire que ça les annule, ça veut dire que ça les réunit. Quand tu dis aime ton prochain, ça veut dire vole-les pas, tue-les pas, convoite pas ses affaires, etc. Le mot dans le sens, dans le grec, ça dit résumé, faire un sommaire. Des commandements. Tu fais un sommaire des commandements, tu vas dire aime ton prochain, c'est ça que ça veut dire. Tu vas condenser, tu vas réunir ensemble les commandements, mais tu vas avoir une phrase qui décrit toutes les autres. Mais ça annule pas les autres, c'est que ça dit que c'est inclus dans cette phrase-là. Le commandement qu'on est rendu à étudier aujourd'hui, c'est celui de l'adultère. Dans Exode 20, le verset 14, qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Quand on parle de faire un adultère, la majorité du monde savent de quoi ce qu'on parle, mais le mot adultère, il est un petit peu plus large que juste ce qu'on pense. Au premier degré, là, l'adultère, c'est commettre l'adultère, c'est généralement l'homme qui est marié puis qui couche avec une autre femme. Ça, en gros, là, au premier degré. Quand tu es marié et tu couches avec une autre personne, tu es en adultère. Mais il y a des métaphores aussi, d'autres sens que la Bible emploie ce mot-là, de pas faire l'adultère. C'est comme être infidèle à Dieu, se prostituer aux idoles, d'adorer des faux dieux étrangers, d'un culte idolâtre. t'es en adultère devant Dieu. Puis il y a aussi d'autres points qu'on voit dans le Nouveau Testament, puis on va les voir un peu plus tantôt avec des versets, quand il parle de même l'impudicité, penser aux choses sexuelles dans ta tête, en convoitant les personnes, t'es déjà en adultère. L'idée, c'est que c'est beaucoup plus large comme terme quand Dieu dit « tu commettras pas d'adultère ». Il n'y avait pas juste l'idée « ah, t'es marié puis tu couches avec un autre ». C'est pas juste à ce niveau-là. Il y a plein de niveaux que ça veut dire. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on peut pas toucher à tous les niveaux, puis on peut pas expliquer en profondeur chaque niveau, il y en a trop d'idées. Mais on y va avec un survol de l'adultère en général. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que Dieu, quand il fait des unions, comme le mariage entre un homme et une femme, pour Dieu, c'est sacré. C'est pas juste prête-moi un vin, puis là tu y remets 20$, c'est comme s'il y aurait juste une entente entre deux personnes d'une idée comme cela. Pour Dieu, c'est bien plus profond que ça quand on parle de mariage. C'est une institution divine qui ne doit pas, qui ne peut pas être dissoute. Quand on dit une institution divine, c'est pas les hommes qui ont décidé de marier des hommes, puis qu'il y ait des lois différentes dans chaque peuple. C'est pas les hommes qui ont décidé c'est à quoi les conditions du mariage. C'est Dieu. C'est Dieu qui a établi le mariage, puis c'est Dieu qui en a fixé les bornes. Comment est-ce que Dieu lui considère que le mariage doit être? Mais il faut avoir les yeux de Dieu pour comprendre, parce que à notre idée, il y en a qui sont mariés avec 20 femmes, mais c'était pas le plan de Dieu, ça, de se marier avec plusieurs femmes. Dieu a toléré des choses des fois, puis il y a des fois qu'il n'a pas toléré, mais son plan, c'est l'homme qui t'aura son père et sa mère. C'est ça qu'on voit dans Matthieu 19:5. Jésus qui a dit ça, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, puis les deux deviendront une seule chair. Ça, Jésus a ramené ce passage-là, mais ce passage-là, c'est un passage qui vient du début de la Genèse, au début de la création, avant même l'histoire du peuple juif, avant même l'histoire de Noé. Au début, avec Adam et Ève, les deux premiers, Dieu a institué le mariage, que l'homme va quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, puis les deux forment qu'une seule chair. Ça n'a pas rapport à la religion que tu pratiques, ça n'a pas rapport à la race que tu fais partie, ça n'a pas rapport à tes opinions. C'est un commandement de Dieu, mais qui n'était pas écrit dans les 10 commandements comme tel, mais c'est écrit de ne pas faire adultère, mais c'est pas écrit de se marier comme cela, mais c'est Dieu qui a donné cet ordre-là au début de la création. C'est un commandement qui est encore valable aujourd'hui, puisque Jésus l'a repris. C'est un commandement-là qui est allé à l'origine. Il dit, l'homme va quitter son père et sa mère, va s'attacher à sa femme, puis les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Comment est-ce qu'on fait pour voir que deux individus sont une seule chair? Mais c'est spirituellement que tu vois ça. Pourquoi? Parce que Dieu le dit. Puis pourquoi que Dieu le dit? Parce que Dieu les a uni leurs deux âmes. C'est deux âmes au début, puis qui sont unies pour faire un. C'est Dieu qui l'a fait, c'est pas des hommes qui l'ont fait, c'est pas le contrat de mariage, c'est l'engagement qu'on prend, oui, puis l'autre dit oui, on est lié spirituellement pour toute notre vie terrestre. Il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est pas les parents, même dans ce temps-là, c'était les parents qui choisissaient le conjoint pour les enfants. Mais spirituellement, il était quand même lié, puis il était une seule âme devant Dieu. Puis Dieu voulait pas que les gens se séparent. Ça fait pas partie de son plan. Faut apprendre à fonctionner ensemble, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Y a-tu des amen à quelque part? Lorsque deux personnes mariées sont vivantes, elles sont devant Dieu unies pour la vie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours rester ensemble. Ça ne veut pas dire, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive dans une vie. Il arrive des choses, des fois c'est invivable. Il y a des blessures, il y a des choses que le monde ont comme caractère, puis tempérament, puis attitude, puis la relation est altérée. Puis même s'ils prennent chacun leur bord, ça ne veut pas dire que Dieu les a séparés. Ils sont encore attachés ensemble. Ça dit dans Romains 7, 2, « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. » Voyez-vous, la seule chose que, dans ce point-là, la seule affaire que Dieu démontre dans, c'est Paul, c'est l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, il dit la seule affaire là, qui peut faire qu'ils sont dégagés un de l'autre, si ce n'est un des deux qui meurt. En réalité, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est là que ça prend sens, quand tu lis ce verset-là, que tu es engagé devant Dieu, puis même la loi de Dieu, la loi de qui sont les commandements de Dieu, enseigne de rester unis jusqu'à temps que la mort nous sépare. T'es lié à ton mari, t'es encore lié, même si vous n'êtes pas ensemble. C'est ça que ça dit. L'adultère, au premier degré, c'est lorsque une personne a une union sexuelle avec une autre personne. Parce que Dieu, il n'a rien contre la sexualité, c'est lui qui a créé cela, Adam et Ève, c'était deux êtres sexuellement équipés, puis c'est Dieu qui les a équipés pour procréer, puis tout ce qu'il y a comme réjouissance dans cette activité-là, c'est Dieu qui a voulu cela. C'est pas, il n'y a pas rien de caché, tout le monde qui a eu des enfants sait de quoi que je parle, c'est pas un mystère caché. Puis c'est correct, c'est voulu dans le cadre du mariage. C'est pour ça qu'il veut qu'on s'unisse à notre conjointe, puis après ça, mais on procrée puis on fait des enfants à volonté. À volonté de Dieu aussi. Puis à volonté du portefeuille. Puis selon les d'autres critères aussi, mais ça dépend où tu vis. Puis quand t'as deux personnes sont liées, ils sont comme engagés une à l'autre, bien, ils n'ont pas le droit d'aller voisiner. Aller faire un tour ailleurs. Parce que quand tu sors de ta relation intime avec ton mari, puis tu t'en vas en faire une avec un autre, tu es un adultère devant Dieu. Ça, c'est au premier degré. On est adultère si on couche avec un autre. Ça, c'est transgresser un des 10 commandements de Dieu. Mais là, on va voir que l'adultère, c'est plus large que juste là. Même s'il y a un des deux qui se divorce, parce que ça peut arriver que la chicane pogne, puis on veut se divorcer, puis qu'il se marie avec un autre. Mais devant Dieu, on va voir des passages qu'on est appelé des adultères. Dans Romains 7, le verset 3. C'est la suite du verset qu'on est en train de lire, qu'une femme est liée à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi. Si donc, du vivant de son mari, ils sont divorcés, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point en adultère en devenant la femme d'un autre. Là, ça s'en vient comme un peu plus clair au point de vue. Quand est-ce que quelqu'un qui est marié a le droit de se remarier qu'un autre? Mais c'est juste quand l'autre est mort. C'est la mort qui doit nous séparer. Devant Dieu, les gens sont encore mariés. Puis si les gens se marient qu'un autre, ils sont appelés adultères. Pas par moi. Moi, c'est pas moi qui a décidé cela, je veux dire. C'est écrit dans la parole de Dieu. Puis là, les gens qui se disent « Ouais, mais je suis divorcé. » Mais Jésus confirme encore cet enseignement-là. Ce qu'on vient de lire, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Ça devient la femme d'un autre, elle va être appelée adultère. Jésus, lui tout, confirme cet enseignement-là. en voulant dire qu'une lettre de divorce n'est pas suffisante pour permettre de se remarier devant Dieu. Dans Matthieu 5, les versets 31 et 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Dans la loi de Moïse, Moïse avait permis cela. Mais Jésus dit, « Mais moi, je vous dis. » Là, c'est pas n'importe quoi. C'est Jésus qui prononce cette phrase-là. Jésus dit que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, il expose à devenir adultère. Que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Celui qui épouse une femme qui a été répudiée, il commet un adultère. Ça veut dire que la femme avait été divorcée. Toi, tu es célibataire, tu veux la marier. Ben, tu maries une femme qui a été divorcée, tu commets un adultère. Puis si t'as répudié ta femme, tu l'exposes à devenir adultère. T'es marié avec, là, puis tu décides de la divorcer, mais là, tu l'exposes, tu lui donnes à avoir le risque de devenir adultère, parce qu'elle voudra pas rester toute seule, elle va vouloir se remarier. Puis si mec elle se marie, elle va tomber en adultère. Mais Jésus dit, sauf pour l'infidélité. Pourquoi qu'il dit ça? Parce que ça le fait, l'infidélité, même si t'as divorce, est déjà en adultère. C'est pas lorsqu'elle va se remarier qu'elle va être en adultère. C'est quand elle va être adultère déjà à cause de son adultère. Voyez-vous, dans ce passage-là, c'est bien clair que quelqu'un qui se divorce n'a pas le droit de se remarier. Là, les Juifs, ils ont amené des points que Moïse avait permis le divorce. Mais Jésus a donné sa version sur le mariage et sur le divorce. Dans Matthieu, chapitre 19, les versets 7 et 8. Là, les Juifs qui entendaient des phrases de même, c'était un coup de masse parce que Moïse donnait le droit de se divorcer. Puis c'était pour plusieurs raisons. Même si, mettons, la femme, le mari prenait pas soin d'elle, puis elle nourrissait pas assez, ou peu importe les raisons, il avait le droit de se divorcer. Mais là, ils reviennent à Jésus en disant ça. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à sa femme une lettre de divorce puis de la répudier? Jésus répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Fait que le principe de vouloir se divorcer, ça n'existait même pas dans les temps où ce qu'on voit là des temps avant la loi, ça voudrait dire même au temps avant Noé, quand Dieu a détruit la terre au temps de Noé, parce qu'elle était remplie de violence puis de méchanceté, il se divorçait même pas dans ce temps-là. C'était pas dans la pensée de Dieu. Ça a jamais été dans la pensée de Dieu de vouloir que les gens se divorcent. Puis les gens, ça, ils faisaient pas cela. Puis Dieu a trouvé ça quand même, ce monde-là était grave dans ce temps-là, au point de détruire la terre par le déluge, puis il dit que dans ce temps-là, ça n'existait même pas, cette idée-là, de laisser ta femme. Il dit que ça a commencé plus tard, dans le temps, quand le peuple juif, il était choisi, puis que là, les lois de Dieu ont commencé à embarquer, puis là, ils ont commencé à vouloir se divorcer. Puis là, Moïse a permis cela, le divorce, par rapport que les gens, ils étaient endurcis, un cœur trop dur. Il voulait des choses, même si Dieu ne les voulait pas. La preuve, un exemple, Dieu ne voulait pas qu'il y ait un roi sur Israël. Ils ont insisté, ils ont chialé jusqu'à... Puis là, Dieu leur en a donné un roi. Mais Dieu leur a dit, vous allez avoir des conséquences, vous avez un roi. Il va prendre vos enfants, il va prendre votre argent, il va faire toutes sortes il va imposer toutes sortes d'affaires sur le peuple. Puis, il était un peuple dur, puis il s'entêtait. Mais le divorce est rentré aussi dans cette idée-là. C'était pas la pensée de Dieu, mais ils ont tellement insisté, puis ils ont tellement été durs, que là, Dieu les a permis, mais c'est pas dans sa volonté. Alors, regardez au verset 9. Il dit, Moïse l'a permis, Mais moi, je vous dis, là, c'est Jésus qui parle. Puis il ne faut pas oublier que quand Jésus dit quelque chose, Jésus, c'est Dieu. C'est l'avocat, mais c'est aussi le juge. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il va dire là? On ne peut pas penser de passer à côté de cela. C'est pesant. Il dit, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ça, là-dedans, il y a encore une autre chose qu'on voit, qu'on remarque. Il est pas à 100% contre que quelqu'un se remarie. Dans ce passage-là, ça dit, c'est Jésus qui dit ça, et si tu répudies ta femme, sauf pour infidélité, ça veut dire que si ta femme a fait adultère, elle a été infidèle, elle a fait adultère, puis t'as répudié, là, t'as le droit de te remarier. Ouais. Mais si elle a pas fait adultère, t'as pas le droit de la répudier. C'est ça que ça dit dans ce texte-là. Puis t'as pas le droit d'en remarier un autre. C'est juste s'il apporte l'adultère que t'as le droit d'en remarier un autre. Sinon, tu vas tomber en adultère. Ou si tu te maries quelqu'un qui a été répudié, qui se sont divorcés, tu vas tomber en adultère. On peut pas jouer avec cela. C'est Jésus qui dit cela, qui a établi les règles. Paul y explique la pensée de Jésus en expliquant quoi faire en cas d'une séparation. Parce que des séparations, ça arrive. Pourquoi que le monde se sépare? Mais des fois, t'es mieux de te séparer que de manger des volées à tous les jours. Parce qu'il y en a des femmes qui ont mangé des volées à coups de poing puis à se faire battre. À un moment donné, tu peux pas dire à la femme, reste là, à continuer à te faire battre, puis regarde de ça, là. Ils se séparent. Que le gars se fasse soigner, mais des fois, c'est la fille, il faut qu'elle se fasse soigner, parce qu'il y a des gars qui mangent des volées par des filles ici. Ça arrive. Il y a des maisons pour les hommes battus aussi. Il y en a pour les femmes battues, mais il y en a pour les hommes battus. Qu'est-ce que Paul dit en cas d'une séparation, dans 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 10 et 11? À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Là, il est en train de dire, ça vient pas de lui, ce commandement-là, ça vient du Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Ça veut dire, Dieu veut pas que les deux se séparent. Dans la limite, là, mettons, je dis, oh, je ressens pas le feeling, je t'aime pas autant qu'avant. C'est pas un critère de se divorcer. Aujourd'hui, le monde, ils ont juste un petit mot de travers ou une petite obstination, puis ils sont prêts à se laisser. C'est pas le plan de Dieu, ça, là. Faut que tu sois capable d'endurer plus que ça. Faut que tu sois capable de supporter plus que ça. C'est pas une question d'endurer dans le sens plus supporter. Tu t'es engagé pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort te sépare. Faut pas que tu penses que tu as une possibilité de laisser l'autre. Faut que tu penses à trouver des moyens dans la prière, dans la recherche d'aide avec les ceux qui t'entourent pour essayer de conserver l'unité dans le couple. Ça peut arriver que pour un temps, tu te sépares de ton mari, comme dans sa dit pour la prière, mais là, dans le cas de violence, des affaires graves, c'est sûr aussi, faut que tu te sépares pas avant qu'il y en ait un qui tue l'autre. Mais en temps normal, Dieu veut pas qu'on se sépare de notre conjoint. On est mariés pour la vie. Fait qu'il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, parce que ça peut arriver, qu'elle demeure sans se marier. Ça veut dire, il donne pas la permission de se remarier. Le plan de Dieu, c'est que tu te sépares parce que là, ça va trop mal. Reste sans te remarier. C'est le Seigneur qui ordonne cela. Qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Ça veut dire quoi, cette phrase-là? Ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'il y ait une réconciliation, que Dieu intervienne puis que ce couple-là se mette à aller mieux, que les problèmes soient réglés, guéris par Dieu, que les prières soient exaucées, puis que le couple reprenne, parce que c'est avec celle-là que les deux âmes étaient liées pour la vie, tant qu'ils sont vivants. Même si les gens, ils disent, l'homme cherche à séparer, puis il fait une lettre pour divorcer, devant Dieu, il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ils sont unis pour la vie. Il dit, tiens, amen de temps en temps. Vous pouvez dire amen n'importe quand. T'attends, puis tu pries. Tu n'as pas eu le choix. Dieu, il est tout puissant, puis Dieu peut accomplir au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Il faut mettre notre foi en Dieu, puis Dieu savait que ça serait une possibilité que ces situations-là soient là. Puis il nous dit, Jésus lui-même, qu'il y a juste la mort ou ça a fait l'adultère, cette personne-là, là, tu as le droit de te remarier. Mais ça n'a pas fait l'adultère que les gens demeurent sans se remarier, puis qu'ils attendent, puis qu'ils cherchent à se réconcilier. Prions pour cela. Parce que j'en connais, pas personnellement, mais je connais une personne qui est de Saint-Constant, puis elle a été 20 ans à attendre son mari. Puis elle disait à tout le monde, mon mari va revenir. Puis le monde disait, voyons donc, blablabla. Puis elle, son mari t'a rendu même marié qu'un autre. Puis elle a cru, puis Dieu l'a exaucé, puis son mari est revenu. Gloire à Dieu, il y a pas, tout est possible par Dieu. Chez nous, il y a des impossibilités, mais Dieu, tout est possible. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Fait que si on est à l'écoute, Seigneur, c'est quoi tu veux que je fasse? Mais Dieu va te dire, réconcilie-toi avec ton mari. C'est lui que tu t'es uni, puis que ton mariage était par Dieu, puis que Dieu a uni vos deux âmes, vous êtes en cause soudés. Même si vous pensez, ah, oh, moi, ça fait 20 ans, je veux refaire ma vie, j'ai donné des 3 lettres de divorce pour être sûr que c'est fait, ça compte pas devant Dieu. C'est les hommes qui s'imaginent, puis aujourd'hui, le scénario est tellement développé qu'ils peuvent se marier entre deux hommes, peuvent se marier avec deux hommes transformés en femmes. Tout est possible aujourd'hui comme mix. Tout est permis aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Si on veut faire la volonté de Dieu, Dieu veut que ta femme que tu as mariée, ta première femme, c'est ta femme pour la vie, tant qu'elle est vivante. Il faut apprendre à rentrer dans le plan de Dieu. Il y a des fois, il y a beaucoup de scénarios qui se développent par notre... On a fait des choix, puis peut-être on ne savait pas, puis on s'est embarqué dans d'autres mariages par après, puis on n'a peut-être pas le droit à se marier. On est mieux de vérifier face à Dieu si c'est conforme pour avoir la paix devant Dieu, parce que c'est pas à cause qu'on est remarié que Dieu approuve ce qui est là. Parce que tu peux t'avoir marié plusieurs fois, puis ça ne veut pas dire que Dieu vous laisse là. Même si les hommes veulent cela, ça ne veut pas dire, puis même si la loi des hommes le permet, ça ne veut pas dire que Dieu le veut. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 16, ça dit, « Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? » C'est ta femme, c'est ton mari, celle que tu as accepté d'être unie. Puis peut-être que Dieu a un plan pour sauver votre couple, puis que ça soit réconcilié, puis même l'amener au salut, c'est quelque chose. Là, si on continue l'étude, il faut juste un petit survol dans d'autres points. La Bible a élargi le sens du mot adultère en incluant l'impudicité. Ce mot-là, impudicité, dans le Nouveau Testament, c'est pornéa. C'est le mot qui englobe la prostitution, les perversions sexuelles en dehors du mariage, tout ce qui est forme de sexualité en dehors du mariage, puis les prostitutions, les perversités, puis les dérives sexuelles dans les pensées, tout ça. Il appelle ça de l'impudicité, puis il appelle ça dans plusieurs passages impudicité. Ça, c'est autant, ça condamne la pornographie, puis toutes ces choses-là. Parce que le gars, il dit, je fais pas de mal, je fais juste écouter des films. Ben oui, mais la pornographie, ça rentre dans le mot pornéo, qui est la prostitution, qui est le mot en français, c'est impudicité qu'on voit un peu partout dans le Nouveau Testament. Mais on voit que dans la Bible, dans Matthieu 5, le verset 27 et 28, ça dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu commettras point d'adultère. Ça, il avait appris, c'était écrit dans la loi, dans les commandements. Jésus dit, mais moi, je vous dis, c'est encore Jésus qui parle, quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Fait qu'on voit dans ce passage-là, quiconque, marié, pas marié, si on regarde, un gars regarde une fille, puis il s'imagine des affaires, t'es en adultère dans tes pensées. Ou même si t'es un gars qui regarde un autre gars, puis tu penses à des affaires, t'es en adultère. Si tu penses à des affaires sexuelles sur des enfants, t'es en adultère. Si tu penses avec des affaires sexuelles avec des animaux, t'es en adultère. Peu importe où ton orientation sexuelle, parce qu'aujourd'hui, ils mettent l'accent là-dessus, si t'es pas marié devant Dieu dans le cadre d'un mariage comme Dieu le dit, homme et femme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pas moins qu'il le dit, c'est Dieu. C'est ça le vrai cadre du mariage. Dieu reconnaît le mariage comme cela, les autres, les hommes le reconnaissent, mais pas Dieu. Mais si tu penses, tu vas pas à l'acte, là, t'as pas encore fait à rien, t'as pas touché à rien, tu fais un qui pensait, c'est appelé de l'adultère, puis t'es en train de transgresser le commandement de Dieu. C'est quelque chose quand même. Sans commettre d'acte de coucher avec un autre, on peut devenir adultère puis nous rendre impurs dans nos pensées, par nos pensées. Dans Marc 7, le verset 20 et 23, ça dit, c'est Jésus qui parle encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, les calomnies, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Il souille l'homme. » Fait que le point qu'on peut comprendre là-dedans, si t'es pas mené par l'Esprit de Dieu pour avoir un désir de vouloir marcher dans des pensées pures, c'est sûr que tu vas te souiller dans plein d'affaires. Puis nous, en tant que chrétiens, on est appelés à marcher dans la pureté, qu'on soit pur, irréprochable, irrépréhensible devant lui. Puis pour y arriver, faut que tu commences par purifier tes pensées, parce que c'est là-dedans que ça commence, pour devenir impur, pour te souiller, pour que tu sois même à un point que tu peux être disqualifié par Dieu. Il faut que tu combattes les mauvaises pensées afin de pas tomber dans des mauvaises actions. Puis pour cela, il faut que tu sois rempli de la compréhension de la volonté de Dieu. Puis il faut que tu aies le désir à vouloir changer pour être saint. Puis là, de combattre, si tu as des tentations, parce que moi, je pense, moi, je ne coche pas d'en penser à tout le monde, mais je pense que tout le monde en a des pensées un peu. Moi, ça, je combats contre cela régulièrement, tous les jours. Quand tu as une pensée, faut que tu la chasses. Sinon, c'est pas long. Ça peut être une image, ça peut être de voir une autre personne. La chair, le péché est dans la chair. Notre corps est un corps de péché. On est encore pris avec. Puis ce qui est pervers, on va avoir un corps qui ne se corrompt plus. Juste après le retour de Jésus, en attendant, est encore dans notre corps corrompu, que lui, il veut des choses que Dieu veut pas. Puis il faut apprendre à filtrer nos pensées pour bloquer, quand tu en as une, arrière de moi, Satan. Des fois, elle vient de notre corps qu'un désir. Arrière de moi, Satan, même affaire. Qu'on fasse mourir les actions de notre corps, qu'on chasse un esprit qui essaye de nous mettre des pensées un peu, ou qu'on soit carrément devant tes vies, au lieu de dire « Arrière de moi, Satan, changez de poste. » Ça va faire la même affaire, ça va arrêter là. Mais si on reste ça sur le poste, puis tu vois de la pornographie, puis tu continues à avoir tes yeux vers cela, t'es en train de pécher. C'est pas des farces, c'est pas moi qui le dis. Qu'est-ce qui se passe quand on pêche? On attriste le Saint-Esprit. On n'est plus rempli, là. On l'a attristé, puis c'est au point qu'il ne peut pas rester là, lui-là. C'est pas un plaisir pour le Saint-Esprit de rester dans un temple qui souille. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut prendre garde de ne pas laisser nos yeux vagabonder puis entretenir des regards adultères. Dans 2 Pierre 2,14, ça dit, ils ont les yeux pleins d'adultère. En parlant des personnes rétrogrades qui sont dans l'Église. Ces passages-là, si vous y relayez le contexte, c'est du monde dans l'Église, puis qui sont rétrogrades, mais qui ont les pensées adultères. Ça veut dire qu'ils vivent là, mais ils regardent le monde en convoitant des pensées impures. Leurs pensées, c'est des pensées impures, puis ils se cachent. Ils se cachent peut-être que les autres le voient pas, là, mais dans sa tête, ils mijotent les pensées impures. Mais c'est des gens charnels. C'est ça que ça dit dans le passage, puis c'est même encore pire que cela. Allez lire ça, vous allez voir qu'il y a une condamnation déjà donnée par Dieu aux gens qui se laissent dans cette condition-là, dans ce passage-là. Dieu veut pas qu'on se laisse aller, frères et sœurs, en adultère. Parce que si on a des pensées adultères ou si on a des actions adultères, on transgresse le commandement de Dieu. Puis dans ce temps-là, Jacques, il dit, si quelqu'un pêche contre un commandement, il devient coupable de tous. T'es jugé par la loi, t'es condamné par la loi, même si on n'est plus sous la loi. Elle n'a jamais été abolie, puis Jésus s'est efforcé à jamais tomber dans aucun péché. N'oublions pas que si le Seigneur nous parle de cela, comme je l'ai dit au début de la réunion, les lois de Jésus, c'est pas juste pour nous torturer là, qu'il fait ça, c'est une loi pour nous rendre libres. Il veut nous sortir de cela. Puis si on prend conscience de ces choses-là, puis on confesse ça à Dieu, non seulement il nous pardonne, puis il nous purifie. Tu n'auras plus pendant un bout de temps que tu ne seras pas retenté, puis que tu n'auras pas à recombattre. Il n'y a pas de combat définitif qui est fait une fois pour toute ta vie. Non, tu vas en avoir d'autres tentations qui vont revenir. Peut-être le lendemain, peut-être une semaine après. Puis tous ceux qui sont francs le savent. Puis ils l'ont tous vécu, puis vous l'avez tous vécu, quand c'est un combat continuel jusqu'à notre mort. Contre la chair, contre l'esprit de ce monde qui essaye de nous emmener dans le péché. N'oublions pas que Dieu jugera les impudiques puis les adultères. C'est écrit dans Hébreux, chapitre 13, le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souilleux, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est écrit à des chrétiens, cela. C'est écrit dans Hébreux. Dieu voit tout ce qui se passe dans nos vies, il voit nos décisions, il voit ce qu'on fait. Ne restons pas dans cette position-là. Si on réalise là, qu'on convoite et qu'on se laisse aller, mais faut arrêter ça. Faut combattre cela. Combattez sans arrêt que ça revient. Combattez, lâchez pas de combattre. Les mêmes combats sont à tous les frères dans le monde. On n'est pas tout seul à combattre contre ces mouvements-là. C'est les esprits de ce monde, la méchanceté, les élans du corps qui veulent, selon la nature humaine, le système de reproduction, là, ça crée des hormones, puis ça crée des idées, puis ça crée des pulsions, puis ça crée... Mais il ne faut pas se laisser aller à nos bas instincts animaux. Faut que par l'Esprit de Dieu, on fasse mourir les actions de notre corps. Alors vous vivrez, que ça dit. Tu vis quand tu apprends à rentrer dans le combat, puis tu demandes au Saint-Esprit de faire mourir, puis de te dégager de tout ce qui est pas la volonté de Dieu. Amen. Dieu, dans son amour, il appelle les gens impudiques et adultères à se repentir afin d'éviter son jugement. Le prochain passage que je vais vous lire, ça s'adresse à une église, à des églises. C'est dans l'Apocalypse au chapitre 2, c'est le dernier verset. Apocalypse chapitre 2, le verset 21 et 22. Ça s'adresse à une église, puis il y a des gens qui sont en adultère dans cette église-là. Mais dans son amour, Dieu y avertit son Église. Puis il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. C'est ça que je vous disais tantôt, même si ça fait longtemps qu'on est dans une situation, ça ne veut pas dire que Dieu l'a approuvé, c'est parce que Dieu nous donne du temps pour se repentir. Dieu, il est extrêmement puissant, mais il ne veut pas qu'on reste dans le péché. C'est pas à cause que ça fait 10 ans qu'on est dans une situation qui est non conforme à la volonté de Dieu. C'est pas à cause si Dieu a jamais intervenu que Dieu y approuve. Puis Dieu laisse du temps pour qu'on comprenne puis qu'on se repente. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Puis elle veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Puis ça s'adresse à une église et à des chrétiens. Dieu veut pas qu'on soit en adultère, puis il veut qu'on arrête l'adultère. Même si Dieu y a permis pendant un bout, quand on prend conscience de quelque chose, il faut déjà prendre des décisions pour régler nos affaires. Il faut chasser les pensées, il faut combattre. Si c'est notre vie qu'on s'est engagé dans des relations qui ne sont pas de Dieu, dans le sens qu'on s'est remarié, puis qu'on n'avait pas le droit de se remarier, mais il faut régler ce problème-là. Parce que tant qu'on est vivant sur la terre, c'est dans le but d'avoir notre vie en règle. C'est ça la sanctification, de régler les points un par derrière l'autre. Puis là, dans ce verset-là, ça parle d'impudicité puis d'adultère, que Dieu donne du temps pour qu'il se repente, puis il est prêt à établir, pour mettre un jugement dans son Église, puis il dit, à moins qu'il se repente. S'il se repente, il n'aura pas de jugement, Dieu va pardonner. Puis c'est ça qui est l'amour de Dieu, de nous donner encore la grâce, de nous offrir d'être pardonnés, même si on a pris des mauvaises décisions ou si on a fait des péchés. Puis il faut, devant Dieu, pendant qu'on est devant Dieu, s'il y en a des gens qui sentent qu'ils sont adultères dans leur vie ou dans leur pensée, qui entretiennent des pensées adultères, des pensées impudiques, des choses qu'on le sait, c'est en dehors du cadre du mariage permis par Dieu. Mais je vous suggère, je vous le demande, je force pas personne, puis je veux pas que vous sentiez que c'est moi qui fais cela, c'est Dieu qui parle de cela présentement. Puis Dieu veut que les gens ajustent leur vie conforme à sa volonté. Puis nous, aujourd'hui, c'est comme si on est averti. Dieu veut pas d'adultère dans son Église, puis il est prêt à juger les adultères. S'il y a des gens qui sont dans une position qu'ils sentent, qui ont besoin de corriger quelque chose, mais c'est devant Dieu. Vous êtes devant Dieu. C'est la repentance, c'est le seul moyen de s'en sortir. Afin que vous soyez en paix avec Dieu. C'est plus important cela que n'importe quoi d'autre dans notre vie. D'être en paix, de garder la paix, peu importe ce que les gens vont penser. On n'est pas là pour ce que les gens pensent, on est là pour ce que Dieu pense de nous. Puis Dieu va agir dans nos cœurs pour qu'on devienne de plus en plus saint, irrépréhensible, sans reproche, puis que l'ennemi n'aura aucun point à nous condamner. Seigneur, on est devant toi aujourd'hui. Puis nous le confessons que nous sommes souvent dans des pensées impures, dans des actions impures. Puis je te demande pardon, Seigneur. Tous les pièges du diable ou les élans de notre corps qui sont que péchés, je te demande pardon. Je te demande de purifier nos vies par ton sang et de nous aider, de nous donner la force. Tu dis que c'est une loi de liberté. Tu veux nous rendre libres, Seigneur. Rends-nous libres, Seigneur. Donne-nous la victoire dans tous ces combats-là. Donne-nous que nos vies soient conformes à ta parole. Puis merci de ce que tu es en train de faire dans nos vies, Seigneur, pour nous changer, nous transformer par ta puissance, dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen.